La croissance verte n'existe pas, n'existe pas.
Alors la réponse est non, la réponse est non, non, non.
We will have to change, we will have to change. Hope is not blah blah blah. Blah blah blah.
Bonjour, bienvenue dans les décroissants tout chauds. Aujourd'hui, je vous fais découvrir avec Lola. Bonjour Lola.
Bonjour.
Un livre de Jean-Claude Amezen, paru en 2015 aux éditions de l'Aube. Les champs mêlés de la terre et de l'humanité. Jean-Claude Amezen est né à New York en 1951. Médecin, immunologiste et chercheur français en biologie, il est l'auteur de l'émission « Sur les épaules de Darwin », une émission mêlant science, philosophie et poésie diffusée sur France Inter de 2010 à 2022 et dont je vous recommande fortement l'écoute. « Sur les épaules de Darwin », c'est aussi trois livres successifs intitulés
« Les battements du temps », « Je t'offrirai des spectacles admirables » et « Retrouver l'aube ».
Dans « Les champs mêlés de la terre et de l'humanité », Jean-Claude Amezen répond aux questions du journaliste Nicolas Truong.
On est en 2015, à l'aube de la COP21 qui aboutira aux accords de Paris.
Accords qui ont fixé comme objectif une limitation du réchauffement climatique mondial entre 1,5 et 2 degrés d'ici à 2100.
Jean-Claude Amezen, comment est née votre prise de conscience écologique ?
À la fois d'une prise de conscience générale, puis plus personnellement, de mes recherches sur les relations entre la vie et la mort, au cours desquelles la question des mécanismes d'évolution du vivant avait pris une importance croissante. Je me suis replongée dans Darwin et j'ai réalisé à quel point le passé, la profondeur de temps, ce que Darwin appelait le long écoulement des âges, était un élément indispensable pour comprendre le présent. À mon émerveillement devant la nature, natura, littéralement ce qui est en train de naître, s'est surimposée l'idée que, pour comprendre ce qui nous entoure, il faut que le passé fasse partie de notre regard. Nous sommes les cousins des oiseaux et des fleurs et des étoiles. Nous faisons partie d'un même récit. Les frontières qui séparent les espèces vivantes ne sont que des degrés d'éloignement sur le thème de la parenté, en perpétuel devenir, à partir d'une généalogie commune. Et Darwin ne pouvait imaginer que ces liens invisibles de parenté pourraient un jour être reconstitués à partir de l'analyse de la molécule, cette molécule même dont les variations et les mélanges de génération en génération sont l'un des supports essentiels des variations de l'hérédité. L'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Après sa mort, sa démarche se poursuivra, effaçant d'autres frontières. La découverte des symbioses révélera que la nouveauté n'émerge pas seulement de parents en descendant à l'intérieur des frontières de chaque branche du buisson de l'évolution. Elle émerge aussi par bouturage, des branches éloignées fusionnant soudain en donnant naissance à une branche nouvelle. Et des gènes, emportés par des virus, quittent en permanence une branche pour s'insérer dans une autre, favorisant ainsi les transferts horizontaux de gènes. Les frontières entre la vie et la mort se modifieront aussi. La mort n'est pas seulement la faucheuse qui vient détruire de l'extérieur. Elle est ancrée au cœur même du vivant, au cœur de chacune des cellules qui composent les êtres vivants. Et l'autodestruction des cellules participe de l'intérieur à la construction de la forme et de la complexité des êtres vivants. Depuis Darwin, les sciences ont intégré une dimension historique, une dimension de récit. Au début du XXe siècle, les astrophysiciens découvriront que l'univers, lui aussi, comme le monde vivant, n'a cessé d'évoluer et qu'il nous a donné naissance. La science explore, reconstitue, réinvente ce passé immense à partir des quelques vestiges qui en demeurent, les fossiles pour les paléontologues et le rayonnement fossile pour les astrophysiciens. Et à partir des traces que cette immense généalogie commune a inscrites en nous, dans tous les êtres vivants qui nous entourent et dans les configurations présentes de l'univers. Les sciences nous ont donné accès à une mémoire étrange.
Le souvenir de ce que personne n'a jamais vécu.
Et de manière apparemment paradoxale, le passé est devenu à la fois un outil indispensable pour comprendre le présent et tenter de se projeter dans l'avenir, et un objet de recherche, une mémoire en perpétuel devenir. Un historien me disait un jour « Dans ma discipline aussi, on ne sait jamais de quoi hier sera fait. » Ou comme l'écrit Borges, « Argile du passé que l'aujourd'hui sculpte à son gré et n'a jamais fini de sculpter. » Mais ce que nous avons appris, c'est que les relations qu'on tissait et que tisse continuellement entre les êtres vivants, les écosystèmes, jouent un rôle essentiel dans le renouvellement de la nature et dans l'émergence de la nouveauté. Et il en est de même des innombrables extinctions qui ont sculpté la diversité du vivant. Et pour ces raisons, ce que nous pouvons préserver, ce n'est pas l'état actuel du monde vivant et de notre planète.
C'est sa capacité à se renouveler, à évoluer et à nous permettre d'y vivre.
Un café ? Un croissant tout chaud ?
Vous êtes bien sur Radio B avec Gaëlle
et Lola.
On considère souvent que la prise de conscience écologique date des années 1960. Mais 130 ans plus tôt, l'horticulteur et arboriculteur Patrick Mathieu s'inquiétait déjà de notre capacité à détruire le monde vivant. C'est en 1831. Mathieu cite la phrase attribuée à Francis Bacon « Knowledge is power ».
La connaissance est du pouvoir.
Et il poursuit « C'est seulement aujourd'hui que l'homme a commencé à prouver à quel point la connaissance est du pouvoir ». L'humanité a désormais acquis une telle domination sur le monde matériel et un tel pouvoir d'augmenter en nombre qu'il est probable que cette dangereuse anomalie envahira toute la surface de la Terre jusqu'à l'annihilation de chacune des belles et merveilleuses variétés d'animaux qui ne correspondent pas à ses besoins. À l'exception, ajoute-t-il, des animaux et des plantes que nous aurons conservés dans nos fermes et nos jardins zoologiques et botaniques.
Sa sombre prophétie semble s'être réalisée.
Malheureusement, nous nous sommes engagés sur ce chemin. La sixième grande extinction dans l'histoire de notre planète, celle dont nous sommes en grande partie responsables, a commencé. Et en ce qui concerne les mammifères, il a été estimé que plus de 80% vivent aujourd'hui dans nos élevages ou sont des animaux de compagnie. Mais dans ce que Darwin appelait l'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses, la merveilleuse diversité de l'univers vivant, il y a une composante qui lui était quasiment inconnue, le monde des organismes unicellulaires, le monde des bactéries,
des levures,
des protistes,
des algues unicellulaires.
Ce monde a probablement été l'unique forme de vie durant les 2 à 3 premiers milliards d'années d'évolution du vivant. Ce monde constitue aujourd'hui une part essentielle de la biodiversité, que nous ne pouvons voir qu'à l'aide de microscopes. Et nous vivons en symbiose avec lui. À titre d'exemple, nous hébergeons chacun dans notre tube digestif plusieurs dizaines de milliers de milliards de bactéries.
Autant que le nombre de cellules qui nous composent.
Et leur présence est essentielle au développement de notre système immunitaire et à notre production et consommation d'énergie.
Sommes-nous devenus maîtres mais également destructeurs de la nature ?
Je pense que la question essentielle n'est pas celle de l'avenir de la nature en tant que telle. La nature s'en est très bien tirée durant 3,5 milliards à 4 milliards d'années sans nous. Et elle continuera à s'en tirer très bien sans nous. Il y a une forme d'orgueil à penser que nous parviendrons à la faire disparaître. Mais la nature nous a donné naissance. Nous en faisons partie. Nous y vivons et nous en vivons. Et en détruisant les composantes de la nature qui sont essentielles à notre existence, c'est à l'humanité que nous faisons du mal. Nous devrions remettre le bien-être de l'humanité au centre de nos réflexions sur la nature.
Prendre soin de la nature, c'est prendre soin de nous.
Des publications scientifiques récentes indiquent que les personnes qui habitent en ville, aux alentours d'espaces verts ou dans les rues bordées d'arbres, sont en moyenne moins malades que celles qui vivent loin des arbres ou des espaces verts. Et une simple promenade dans la nature aurait pour effet de diminuer, chez les citadins, le risque de dépression. Il y a une dimension préventive et thérapeutique dans notre relation à la nature. Et quand nous parlons de la nature, nous parlons aussi de nous.
Y a-t-il un risque à focaliser sur le seul réchauffement climatique ?
Le changement climatique est une menace grave qui nécessite une prise de conscience et une mobilisation urgente au niveau mondial. Mais il nous faut aussi réaliser que le changement climatique n'est que l'un des nombreux symptômes des dégradations de l'environnement planétaire que causent nos modes de vie. Durant la plus grande partie du siècle dernier, la croissance économique était fondée sur ce qui apparaissait comme une certitude, l'abondance des ressources naturelles. Nous avons épuisé nos ressources minières sur notre chemin de la croissance. Nous avons brûlé notre pétrole et nos forêts sur notre chemin vers la prospérité.
Nous avons cru à la consommation, sans conséquence.
Ces jours-là sont enfouis. Sur le long terme, ce modèle est une recette pour un désastre, un pacte de suicide global. Et ces dégradations de notre environnement planétaire ont, indépendamment de leurs effets sur le changement climatique, des effets majeurs sur la santé humaine. Ainsi, une étude de l'OMS publiée en 2014 indique que la seule pollution de l'air extérieur a provoqué en 2012 la mort prématurée de plus de 4 millions de personnes dans le monde. En France, la seule pollution de l'air extérieur provoque chaque année la mort prématurée de plus de 40 000 personnes. J'ai pris pour exemple la pollution. Mais nos dégradations de l'environnement ont aussi pour conséquence, en plus de la pollution de l'air et de l'émission de gaz à effet de serre,
la pollution des sols,
des nappes phréatiques et des mers, l'épuisement de la plupart des ressources naturelles non renouvelables,
la déforestation,
l'épuisement des sols et des réserves d'eau par l'agriculture et l'élevage intensif,
l'épuisement des ressources maritimes par la pêche intensive,
l'acidification des océans, l'érosion des écosystèmes et de la biodiversité, l'émergence de maladies infectieuses, d'origines animales. Focaliser la préoccupation écologique sur le seul réchauffement climatique risque de nous détourner des efforts indispensables pour protéger la santé humaine, réduire les inégalités et préserver notre environnement. Les décroissants tout chauds, c'est fini pour aujourd'hui. Le livre « Les champs mêlés de la terre et de l'humanité » de Jean-Claude Amézène, dialogue avec Nicolas Truong, est disponible à la médiathèque Vaillant de Bourg. Nous nous quittons sur le générique de l'émission « Sur les épaules de Darwin »,« Neck Brace », du duo new-yorkais de musique électronique Ratata. À bientôt sur les bonnes ondes de Radio
B. À bientôt.
They were just getting ready to swing, knocked me out with a baseball bat.